Chapitre 1. Viviane. Je n'en reviens pas qu'il soit là. Il ne vient jamais à ce genre de truc, à moins que ce soit organisé par un ami. T'as vu qu'il a dépassé Arnaud Reinhardt dans le classement Forbes des milliardaires? Le pauvre Arnie a failli faire une crise de nerfs en plein milieu du restaurant Le Jean-Georges quand il l'a appris. Les murmures s'intensifient au milieu du gala de bienfaisance annuel du Frederick Wildlife Trust pour les espèces en voie de disparition. Cette année, la star de l'événement est soi-disant le plus vieux siffleur. Mais aucun des 200 invités, qui savourent leur coupe de veuve cliquot et les cannolis au caviar, ne parle du bien-être de l'oiseau. J'ai entendu dire que sa villa familiale au bord du lac de Côme est en train d'être rénovée pour un budget de 100 millions de dollars. Elle date de plusieurs siècles. Donc je suppose qu'il était temps. Les chuchotements deviennent de plus en plus bruyants et sont accompagnés de coups d'œil furtifs ou de soupirs rêveurs. Je ne me retourne pas pour découvrir qui enthousiasme à ce point les membres habituellement placides de la haute société de Manhattan. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis bien trop concentrée sur une certaine héritière de grands magasins qui se dirige vers la table à goodies en vacillant sur ses talons aiguilles vertigineux. Elle regarde discrètement autour d'elle avant de saisir une des pochettes cadeaux personnalisées et de la mettre dans son sac à main. Dès qu'elle s'éloigne, je parle dans mon oreillette. « Shannon, code rose à la table des goodies. Trouve à qui elle a pris la pochette et remplace-la. » Ce soir, chacune d'entre elles contient plus de 8 000 $ de cadeaux. Mais il me sera plus facile d'ajouter le surcoût de son vol au budget de l'événement que de confronter l'héritière des magasins Denman. Mon assistante grommelle dans mon oreillette. « Tilly Denman, encore ? Je me trompe ou elle peut s'offrir tout ce qu'il y a sur cette table sans même voir la différence sur son compte en banque. Oui, mais pour elle, ce n'est pas une question d'argent. Elle aime la montée d'adrénaline, je réponds. Allez, vas-y. Je commanderai du pudding chez Magnolia Bakery demain pour compenser tes efforts quant au remplacement de la pochette. Et bon sang, trouve Pénélope, tu veux? Elle est censée gérer la table à goodies. Ricane Shannon en comprenant mon sarcasme. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil sur les pochettes et sur Pénélope. Mais j'attends une immense boîte de pudding demain. J'éclate de rire et secoue la tête au moment où la communication se coupe. Pendant qu'elle s'occupe des cadeaux, je fais un tour de la salle, à l'affût du moindre problème. Quand je me suis lancée dans ce métier, je trouvais étrange de travailler pour des événements auxquels j'aurais normalement été invitée. Mais je m'y suis habituée au fil des années, et les revenus de mes prestations m'offrent un peu de liberté vis-à-vis de ma famille. Ils ne font pas partie du trust fund que mes parents ont prévu de me donner, ni de mon héritage. Cet argent est le fruit de mon travail en tant qu'organisatrice d'événements de luxe à Manhattan. J'adore le défi de créer des réceptions sublimes en partant de zéro, d'autant que les gens riches adorent les belles choses. C'est gagnant-gagnant. Je vérifie une dernière fois que la sono est prête pour le discours de remerciement de fin de soirée quand Shannon vient vers moi en courant. Viviane, tu ne m'as pas dit qu'il était là, siffle-t-elle. Qui ? Dante Russo. Mes préoccupations au sujet des pochettes cadeaux partent aussitôt en fumée. Je lève soudain la tête vers Shannon et remarque ses yeux brillants et ses joues rouges. Dante Russo ? Je répète alors que mon cœur bat plus fort sans que je sache pourquoi. Mais il n'a pas renvoyé sa réponse pour dire qu'il venait. Eh ben, les règles de confirmation ne s'appliquent pas à lui, répond-elle en frémissant d'excitation. « Je n'en reviens pas qu'il soit là. Les gens vont en parler pendant des semaines. » Les chuchotements de tout à l'heure prennent soudain tout leur sens. Dante Russo, le PDG du groupe Russo, un conglomérat de produits de luxe, se rend rarement à des événements publics, à moins qu'il en soit l'organisateur ou l'un de ses amis proches ou un collaborateur important. Le Frederick Wildlife Trust n'entre dans aucune de ces catégories. Cet homme est également l'un des plus riches et donc l'un des plus scrutés de New York. Shannon a raison. Les gens parleront de son apparition à cette soirée pendant des semaines, si ce n'est des mois. Tant mieux, je dis en m'efforçant de calmer mon rythme cardiaque effréné. Peut-être que ça fera avancer la cause du plus vieux siffleur. Mon assistante me regarde en levant les yeux au ciel. Viviane, tout le monde se fiche de... grommelle-t-elle avant de marquer une pause et de regarder autour d'elle pour reprendre en chuchotant. « Tout le monde se fiche des plus vieux siffleurs. Enfin, je suis triste qu'il soit menacé, mais soyons honnêtes. Les gens sont ici pour se voir et être vus, rien de plus. Encore une fois, elle n'a pas tort. Il n'empêche que peu importe la raison de leur présence, les invités lèvent des fonds pour aider une bonne cause et ces événements permettent de faire tourner mon entreprise. Le véritable sujet de la soirée, poursuit Shannon, c'est à quel point Dante est canon. J'ai jamais vu un mec porter aussi bien le costard. Shan, t'as un mec? Et alors? J'ai quand même le droit d'apprécier la beauté des autres. Oui, eh bien, je crois que tu as assez apprécié pour la soirée. On est là pour travailler, pas pour mater les convives. Je réponds en la poussant délicatement vers la table à dessert. Tu peux rapporter des tartelettes aux myrtilles? Ça commence à manquer.
Espèce de rabat-joie,
marmonne-t-elle avant de s'exécuter. J'essaie de me reconcentrer sur la sono, mais je ne peux m'empêcher de balayer la salle du regard, cherchant l'invité surprise de la soirée et ignorant le DJ et l'image 3D du plus vieux siffleur pour m'arrêter sur l'attroupement réuni près de l'entrée. Les gens sont tellement serrés que je ne vois rien au-delà du premier rang, mais je parierais mon compte en banque que Dante se trouve au centre de leur attention. Mes soupçons sont confirmés quand la foule se disperse brièvement et que j'aperçois des cheveux foncés et de larges épaules. Un frisson remonte le long de ma colonne vertébrale. Dante et moi appartenons à des cercles proches, mais on ne s'est jamais officiellement rencontrés. De ce que je sais de sa réputation, je serais heureuse que ça reste ainsi. Il n'empêche que je ne peux ignorer sa présence magnétique qui m'attire vers l'autre côté de la salle. Toutefois, une vibration incessante contre ma hanche fait vite disparaître les frissons qui parcouraient ma peau, détournant mon attention du fan club de Dante. Mon ventre se noue quand je sors mon téléphone de mon sac et découvre qui m'appelle. Je ne devrais pas répondre à des appels privés, alors que je suis au beau milieu d'un événement, mais il est tout simplement interdit d'ignorer Francis Lowe. Je jette un dernier coup d'œil autour de moi pour m'assurer qu'il n'y a pas d'urgence à traiter, puis me faufile dans les toilettes les plus proches. Bonjour, père. Après presque 20 ans d'entraînement, ma salutation formelle me vient naturellement. Je l'appelais papa avant, mais après que l'eau Jules a décollé et qu'on a quitté notre T2 pour emménager dans une maison de maître à Beacon Hill, l'un des quartiers les plus aisés de Boston, il a insisté pour que je l'appelle père. Apparemment, ça sonne plus sophistiqué et bourgeois.
Où es-tu ?
Grogne-t-il de sa grosse voix.
C'est quoi cet écho ?
Je suis au travail. Je me suis cachée dans les toilettes pour prendre ton appel. J'explique en m'appuyant contre le lavabo. C'est une levée de fonds pour le plus vieux siffleur en voie de disparition. Je souris en l'entendant soupirer longuement. Mon père a très peu de patience pour les causes saugrenues que les gens utilisent comme prétexte pour faire la fête, même si ça ne l'empêche pas d'aller à ses soirées et de donner de l'argent. C'est ce qui est attendu, après tout.
Tous les jours, j'apprends le nom d'un nouvel animal en danger,
râle-t-il.
Ta mère est dans le comité en charge de la protection de je ne sais quel poisson, comme si on ne mangeait pas des fruits de mer toutes les semaines.
Ma mère, ancienne esthéticienne, est désormais mondaine professionnelle et membre d'une organisation caritative.
Puisque tu es au travail, je vais faire vite,
dit mon père.
On aimerait que tu te joignes à nous pour dîner vendredi soir. On a une nouvelle importante à t'annoncer.
Il a beau présenter ça comme une invitation, je sais qu'il s'agit d'un ordre. Soudain, mon sourire disparaît. Ce vendredi ? Nous sommes mardi et je vis à New York, alors que mes parents sont à Boston. C'est vraiment de dernière minute, même pour eux.
Oui,
répond mon père sans en dire plus.
Le dîner est à 19h pile. Ne sois pas en retard.
Et il raccroche. Je garde mon téléphone plaqué contre mon oreille pendant quelques secondes avant de baisser le bras. Il glisse dans ma main moite et manque tomber par terre avant que je le range dans mon sac à main. C'est drôle qu'une simple phrase suffise à me plonger dans une spirale d'angoisse.
On a une nouvelle importante à t'annoncer.
Est-ce que quelque chose est arrivé à l'entreprise? Est-ce que quelqu'un est mourant ou malade? Mes parents vendent-ils leur maison pour déménager à New York comme ils ont menacé de le faire par le passé? Mon cerveau s'emballe, se posant 1000 questions et envisageant 1000 possibilités. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai une certitude. Une convocation d'urgence à la demeure Lowe n'est jamais de bon augure.